Bonjour Monseigneur Jean-Marc Mika.
Bonjour Anne-Rose.
Nous voilà repartis pour un nouvel entretien. Alors on va aborder plusieurs sujets aujourd'hui. D'abord, je voudrais vous parler avec vous du contexte un petit peu anxiogène dans lequel nous sommes après le discours notamment d'Emmanuel Macron. Quand on observe le monde, quand on entend ce monde qui semble vraiment se préparer à la guerre, on a vraiment le sentiment que le monde ne cherche au fond pas tellement à construire la paix, ou du moins que le monde a un peu abandonné ce rêve de paix. Mon Dieu, qu'est-ce qu'on a besoin d'une parole d'Église pour nous aider à avoir un rêve de paix, à construire un rêve de paix, même si ça paraît un petit peu enfantin de présenter les choses comme ça. On a vraiment l'impression que notre monde se prépare à la guerre et qu'il a abandonné toute espérance de paix.
Ce qui est en jeu, à mon avis, c'est l'abandon de l'insouciance. Et ça, c'est une démarche spirituelle profonde, traditionnelle, de toujours. Le Christ, dans l'Évangile, prévient que la vie est le théâtre d'un combat entre Dieu et l'ennemi de Dieu, que marcher à sa suite, c'est mettre nos pas dans les siens, c'est se préparer à porter la croix avec lui, qu'il y a le mal et qu'on ne pourra pas y échapper. Et donc une certaine insouciance qui fait que on avance en se souciant pas de cette réalité de la vie qui est un combat. J'aime dire qu'on ne vit pas sans faire exprès, on vit parce qu'on choisit la vie. C'est très traditionnel dans le livre du Deutéronome. Choisis donc la vie. Si tu veux vivre, choisis la vie. Ça se fait pas tout seul, quoi.
Oui.
Bon, notre monde a peut-être un peu oublié notre monde occidental, notre monde contemporain, de confort, de facilité, qu'on ne vit pas sans faire exprès, que la vie, elle se choisit, elle se construit, elle se décide, alors à l'échelle des nations et à l'échelle des personnes, à l'échelle des communautés, des familles, dans nos relations, les uns avec les autres. Et pour ça, l'Évangile donne les repères. Hein. Il faut aimer son ennemi, il faut pardonner jusqu'à 70 fois cette fois, etc., etc. Toute chose que l'on décide être impossible. Et donc, on passe à autre chose. On ne regarde pas la réalité du monde, la réalité des choses. Et on fait semblant de croire, ou on croit que si on regarde pas le mal, il nous touchera pas, quoi. Voilà. Eh bien, c'est pas comme ça. Et l'actualité du monde nous le rappelle d'une manière douloureuse, inquiétante, imprévue, etc. Mais cela dit, rejoint une grande réalité de la foi qui permet de lire l'histoire et de lire la vie du monde. Comment dire, il y a rien d'étonnant. Voilà, à ce qui se passe, c'est comme ça, quoi. C'est le réel. Bon. Ensuite, c'est le monde, c'est une notion large. Et le monde se prépare à la guerre, oui, peut-être. Enfin, en tout cas, c'est les personnes qui font la guerre, c'est les personnes qui décident de ne plus la faire, c'est les personnes qui décident d'engager...
Enfin, c'est quelques personnes qui embarquent toutes les personnes.
C'est ça. Alors oui, c'est vrai, mais en même temps, dans nos démocraties, pour mettre en... Alors, la Russie de Vladimir Poutine, c'est une chose. Les États-Unis de Donald Trump, c'est autre chose. C'est pas la même chose. Une nation n'est pas démocratique du tout. L'autre est en principe totalement modèle de démocratie, et même la matrice une des matrices des démocraties modernes. Et le président Trump, il a été élu. Il a été élu légitimement. Il a pas tordu le bras des uns et des autres et du législateur, que sais-je, pour se retrouver président de la République. Il a été élu. Et donc, bien sûr, c'est quelques personnes, mais quelques personnes qui ne viennent pas de nulle part. Elles viennent d'une population qui fait des choix. Et cette population, elle fait des choix parce qu'elle est... manipulée, parce qu'elle est influencée, parce qu'elle est éduquée, formée, voilà. Et nous, chrétiens, ça nous renvoie à la nécessité impérieuse de nous former à l'Évangile, à la doctrine sociale de l'Église, à la manière dont la foi nous donne de regarder le monde et ce qui s'y passe, et le fameux combat dont je parlais, pour sortir de l'insouciance, de l'indifférence, et nous engager, chacun à notre niveau, à faire des choix, que ce soit au niveau, dans un an, un peu plus, il y aura des élections municipales, déjà à ce niveau, on aura des choix à faire. On a des choix à faire au moment où on élit des députés, on a des choix à faire au moment où on élit un président de la République.
Oui.
Bon, quand on est chrétien, ça. Mais on a aussi des choix à faire dans l'organisation quotidienne de notre vie, de notre communauté, que ce soit en paroisse ou que ce soit... Si c'est l'égoïsme qui prime, si c'est mes intérêts qui priment, etc., à mon échelle, multiplié par le nombre d'habitants qu'il y a sur la planète, ça donne ce que ça donne.
Est-ce qu'il n'y a pas aussi un espèce de réflexe de considérer l'autre a priori comme mon ennemi, comme celui qui veut un peu empiéter sur ma liberté, plutôt que a priori comme mon frère avec lequel je peux vivre?
C'est l'histoire éternelle de Caïn et Abel.
Donc on s'en sortira
jamais. C'est à la fois, justement, le Christ, en mourant sur la croix et en ressuscitant le jour de Pâques, nous donne les clés pour sortir de cette situation-là. Mais en effet, si on joue les insouciants et les indifférents, c'est cette loi-là qui s'impose. Et on ne vit pas sans faire exprès. Et faire exprès de vivre, c'est choisir celui qui donne la vie et qui en donne les clés. Et il faut qu'on s'engage de manière résolue là-dedans. Ça se fait pas tout seul, quoi. Et on vient d'entrer en carême, bien justement. On est invité à poser des choix et à s'entraîner à un combat. Alors, le climat mondial actuel, la rencontre... terrifiante entre le président américain et le président ukrainien ces derniers jours, a plongé le monde dans une très très grande angoisse de ce qui pourrait arriver. Et le discours du président de la République française s'inscrit dans cette angoisse-là. Mais il faut avoir la conscience, la conviction de foi que beaucoup de choses dépendent de nos choix à nous personnels et aussi de notre engagement. Si nous voulons que le monde soit sain, mais commençons par l'être nous-mêmes. Si nous voulons que le monde soit vertueux, commençons par l'être chacun de nous. Et entraînons-nous les uns les autres fraternellement à l'être aussi. Et c'est comme ça que ça marche, quoi. Tout est parti d'un petit groupe d'apôtres, de quelques disciples, de quelques femmes qui se sont mises à suivre Jésus et qui ont cru et qui ont entraîné d'autres à le croire aussi. Eh bien, il nous revient, vous savez, quand on martèle, je martèle dans le diocèse, qu'il faut qu'on accepte de nous convertir, de changer, de sortir la tête du sable, de croire qu'on peut continuer comme ça sans que rien ne change, et on râle que si on dit qu'on doit changer parce que c'est pas possible, c'est pas en cassant le thermomètre qu'on guérit le monde de ses maladies, quoi. Hein. Bon, le thermomètre, il révèle qu'il y a quelque chose qui va pas, et il le fait assez tôt pour permettre d'apporter les traitements qui conviennent. Il faut qu'on sorte de l'insouciance. C'est vraiment ça un peu, je veux dire, ce matin, en réponse à votre question.
Alors, parmi les personnes qui nous montrent un peu le chemin sur cette voie de l'insouciance, je pense aux catéchumènes. Ces catéchumènes qui vont répondre à l'appel décisif ce dimanche, puisque c'est le premier dimanche du temps de carême. Donc, ils répondront à l'appel décisif lors de la messe que vous allez présider en la cathédrale de Tarbes à 11h. Alors, ils sont un peu plus de 30 cette année. Puis, ils seront 80. Alors, ces 30 et quelques catéchumènes, plus une cinquantaine d'autres personnes qui seront confirmées à Pentecôte. Parmi ces personnes, il y a des personnes qui ont été peut-être rejointes par un chrétien qui a eu le courage d'annoncer, qui a eu le courage de faire un pas vers elle. Et puis, il y a aussi des personnes qui sont touchées par le Seigneur sans nous, sans notre intervention. Le Seigneur ne se sert pas forcément de nous pour toucher les cœurs. Ça, c'est assez intéressant de voir ça.
Et encourageant, parce que, comme l'Écriture le disait ces jours-ci, rien n'est impossible à Dieu, et ils en sont pour nous un signe fort, et un signe qui soutient aussi notre espérance dans le contexte un peu anxiogène du moment, et qui pourtant, si on regarde les choses avec le regard de la foi sur l'histoire, n'apporte rien de bien nouveau par rapport à ce que le croyant sait de l'histoire du monde et du combat qui est en jeu dans ce monde, ils sont un signe que Dieu vient toucher les cœurs et mobiliser de l'espérance, de la charité, de la foi, pour justement croire que le Christ est vainqueur de la mort et du mal, et qu'on doit, nous qui sommes chrétiens, en être déjà des signes convaincants et convaincants.
L'engagement de Dieu à l'égard de l'humanité, lui, il vacille pas, il change pas. C'est nous qui changeons.
Rien de nouveau, absolument rien de nouveau. Voilà. Simplement, ben voilà, on a voulu croire que le monde livré à lui-même serait naturellement bon et juste. Bien, c'est pas le cas. Et il faut que les hommes s'engagent dans une justice qui transcende les intérêts individuels et collectifs de tel ou tel groupe, mais réellement construire une humanité fraternelle. Et ça ne se fait pas tout seul. Et c'est là que le message de la foi, que les chrétiens ont quelque chose à dire au monde pour susciter son espérance et aussi son engagement concret à transformer le monde.
Qu'est-ce que vous leur direz aux catéchumènes dimanche quand ils répondront à l'appel décisif ? Qu'est-ce que vous attendez d'eux ? Bon, ils ne sont pas encore baptisés, ils seront baptisés à Pâques. Dans ce dernier sprint avant le baptême, qu'est-ce que vous attendez d'eux ? Qu'est-ce que vous avez envie de leur dire, leur demander peut-être ?
Qu'ils sont fous et qu'ils ont raison de l'être. Ils sont fous. Quand on regarde les choses, quand on sait ce qu'on sait, qu'on voit ce qu'on voit, qu'on entend ce qu'on entend, les révélations, y compris concernant l'Église, l'état du monde, etc., ben, qu'est-ce qu'ils viennent faire là, quoi ? Franchement, est-ce que c'est bien raisonnable ? Ben, réponse, non, c'est pas raisonnable du tout. Ils sont fous. Ils sont fous de faire confiance, ils sont fous d'y croire, ils sont fous. Mais ils ont raison de le faire.
Nous aussi, alors.
Exactement. Ils ont raison de le faire parce que c'est la folie de la croix, quoi. Voilà. Et ça nous dépasse.
Monseigneur, un petit mot aussi pour dire que ce mercredi dernier, pour les cendres, vous étiez à Maubourguet. Peut-être un petit mot pour conclure sur ce temps que vous avez passé avec la communauté paroissiale.
Quelques jours avant le mercredi des cendres, en regardant l'agenda, j'ai constaté que je n'étais engagé nulle part. Et j'étais en réunion, un petit groupe de travail auquel participait le père Gustave, curé de Maubourguet. Et il m'a dit, si vous voulez, venez chez nous. Et donc, évidemment, j'ai accepté avec grande, grande joie. Et j'étais heureux de retrouver, je crois que c'était la première fois depuis qu'ils ont été installés, lui et son vicaire, l'abbé Denis, depuis donc le mois de septembre, qu'ils réunissaient les trois ensembles paroissiaux dont ils sont curés, c'est-à-dire Maubourguet, Rabastens et Castelnau-Rivière-Basse, pour une unique célébration. Et il y avait beaucoup de monde dans un bon climat. Ça, c'est une pierre posée par rapport à ce dont je rêve un petit peu pour le reste du diocèse. C'est-à-dire que les communautés, tout en restant des communautés de proximité et de vitalité propre, parce que chacune a son histoire, sa sensibilité, etc., eh bien, sont capables de temps en temps d'entrer en communion visible, en se regroupant pour vivre des temps forts communs. Et j'étais très très heureux de vivre ce temps fort-là avec eux. Il y avait beaucoup de monde dans l'église de Maubourguet. C'était un beau moment.
Voilà, et puis ce moment, eh bien, il nous donne un petit peu des signaux de la vision pastorale que vous avez pour l'ensemble du diocèse, mais nous en reparlerons à l'occasion d'un prochain entretien. Merci beaucoup, Mgr Mika, à la semaine prochaine.
Merci beaucoup, Anne-Rose, et bonne semaine à tous nos auditeurs.